Bonjour à toutes et à tous, les chroniques financières, quatrième numéro déjà sur CFM Rhodes, une émission présentée, animée par Steve Bono. Salut Steve.
Bonjour David, bonjour à tous.
Tout va bien ?
Impeccable, hein. Mieux que le Bitcoin en tout cas.
Voilà, je pensais aussi un petit peu à ça. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler dans cette émission, mais peut-être que si, hein, puisque la thématique de la semaine, comme dit, c'est la construction du portefeuille. Ouais. Aujourd'hui, avec toi, alors on n'est pas dans de la maroquinerie, pas du tout, quoi qu'on est quand même peut-être sur du sur-mesure.
On est sur du sur-mesure. Il y a de toute façon toujours un élément subjectif dans la construction du portefeuille. Le conseiller apporte quelque chose de personnel.
La construction du portefeuille, c'est-à-dire, tu vas développer, hein, mais comment on quantifie tel ou tel type d'investissement par rapport à une somme globale ? Comment on répartit un petit peu ?
Exactement. Okay. Voilà. Et donc là, on va s'appuyer sur tout le travail qu'on a effectué jusqu'à présent, donc avec le client. On a pu déterminer donc son profil d'investisseur, comme on l'a vu dans les sessions précédentes. Mmh. Donc, il nous a apporté un certain nombre d'informations sur son appétence au risque, sa capacité à assumer du risque, etc., etc. On a pu discuter aussi donc de l'établissement du projet d'investissement. Donc, c'est toujours la question un petit peu basique, mais fondamentale. Mmh. En fait, pourquoi on investit ? Mmh. Pourquoi est-ce qu'on cherche à placer son argent ? À assumer quelque part un certain risque.
Je renvoie d'ailleurs vers les podcasts des émissions précédentes sur le site cfmradio.fr, rubrique les chroniques financières, évidemment.
Voilà, donc on a toutes ces informations à présent, donc on sait quel est l'objectif de l'investisseur. Et donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, si je puis dire, à savoir donc comment ces deux catégories d'informations vont nous permettre d'établir et de structurer un portefeuille qui devrait permettre au client d'atteindre ses objectifs.
Très bien. Déjà, est-ce que la quantité, enfin l'argent qu'on désire investir joue sur la construction du portefeuille ? Est-ce que c'est la même chose si on arrive avec 100 000 ou si on arrive avec 10 millions d'euros ?
Alors, l'importance en fait de la somme de départ, ça va avoir une importance, si je puis dire, en fonction, on va apprécier ça en fonction de l'objectif financier qu'on a. Rappelons-nous en fait de ce qu'on évoquait la dernière fois. Donc, une fois qu'on arrive à savoir pourquoi le client investit, qu'on arrive à le quantifier. Oui. C'est évidemment pas la même chose si on part avec une petite somme et qu'on essaie d'atteindre une somme plus importante que si on part avec déjà une somme conséquente pour aller vers une somme importante. Donc là, d'accord, il va y avoir un impact sur le taux de rendement du portefeuille que l'on calcule. Et de ce taux de rendement va découler en fait un portefeuille plus ou moins agressif en fonction des objectifs et des contraintes que l'on a au départ.
Par exemple
Par exemple, la somme que l'on nous confie au départ.
Ok, alors on y va pour la construction de ce portefeuille.
Alors, le plan d'investissement, donc une fois en fait que, comme je disais, on a récupéré les informations fondamentales du client, donc on construit le plan. En deux mots, on part donc d'une somme de départ que le client nous confie et on veut aller vers une somme d'arrivée que l'on a établie avec le client qui correspond à son projet.
Tout ça sur un horizon interne de 5 ans, 10 ans, pareil, qui est décidé avec vous.
Qui est décidé avec le client. Donc ça fait partie du travail en fait en amont de préparation à la structuration du portefeuille. Donc on récupère un certain nombre de paramètres et ces paramètres se traduisent dans un plan.
Quand tu dis un plan, c'est genre vraiment, tu as une feuille, un stylo et tu fais...
D'accord. Il y a un plan, donc on part de ce point de départ, c'est-à-dire que voilà, on a, allez, pour illustrer un petit peu le propos, on a 100 000 euros à investir, on a un horizon d'investissement de 10 ans, ok, et on veut, à la fin de 10 ans, avoir 300 000 euros.
C'est raisonnable
Oui, c'est raisonnable.
D'accord.
Donc... 300 000 euros, 100 000 euros, je peux calculer en fait le taux de croissance nécessaire que je dois appliquer aux 100 000 euros pour
chaque
atteindre 300 000
pour
euros
atteindre
dans 10 ans.
300 000, d'accord.
Voilà. Et en fonction de ce taux, je vais me dire, bon, le client a la capacité d'assumer du risque, il faut qu'il prenne quand même un certain risque pour pouvoir faire croître son capital initial. Donc, je vais avoir dans son portefeuille une allocation à des actifs risqués. Plus risqué, parce qu'il y a
plus
une hiérarchie en fait des risques dans les classes d'actifs. Alors, ce qu'on appelle une classe d'actifs, tout le monde connaît les actions, par exemple. Hein, voilà. Donc là, vous achetez une part du capital social d'une société qui est cotée, mais vous pouvez aussi acheter des emprunts obligataires. Qu'est-ce que c'est un emprunt obligataire ? En fait, c'est la même chose que lorsque moi, je vais à la banque pour emprunter de l'argent. Bah, une société peut aller sur le marché pour emprunter de l'argent. Donc, elle va emprunter... à une période définie, 5 ans, 10 ans, 15 ans, elle va payer un taux d'intérêt dessus ce sont des paramètres qui sont fixes. Et moi, en tant qu'investisseur, je peux acheter son emprunt. C'est-à-dire que la société va me payer comme si je lui prêtais de l'argent.
Ça, ces actifs-là, ils font partie des actifs risqués ?
Oui. Oui. C'est pas le même. Alors, voilà. Là, on rentre en fait un petit peu dans le vif du sujet parce que c'est pas la même nature de risque. Je prends les actions, par exemple. Donc, les actions, j'ai deux grands risques, on va dire, pour schématiser. Un, c'est que la compagnie fasse faillite.
Ouais. Bon.
Ça là, peut... j'ai perdu le capital.
Ouais. Là, quand même, c'est... moi, comme je n'y connais rien, d'expérience, bon, ça arrive que des grandes boîtes se cassent la gueule, ferment. Mais bon, c'est pas... ça me semble pas... je sais pas, sur le CAC 40, je sais pas, LVMH ou je sais plus qui, je les vois pas fermer dans les deux ans.
Non, c'est pas fréquent.
Ouais,
disons que quand on arrive, en fait, à se faire lister sur le CAC 40 ou un des grands marchés comme ça, on a quand même, en fait, un bilan derrière.
Ouais, normalement.
On a un track record, enfin, on a un parcours de vie, la société qui vient se faire côté sur le CAC 40, c'est déjà une société d'une certaine importance. Mmh. Donc, on peut pas exclure qu'il y ait un accident qui arrive, mais enfin, les chances sont quand même en votre faveur.
D'accord.
Donc, il y a ça, et puis il y a ce qu'on appelle le risque de volatilité. C'est quoi la volatilité ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez une action d'une société, donc votre rendement, comment est-ce qu'il va être établi une fois que vous êtes investi ? Par deux éléments, le gain en capital, c'est-à-dire vous achetez bas, vous vendez haut,
si tout va bien,
et éventuellement, les dividendes que vous pouvez recevoir de cette action.
D'accord, c'est une part du bénéfice attribué aux actionnaires chaque année.
Exactement. Alors, contrairement à l'emprunt obligataire, là, dans le cas d'une obligation, on parle d'un coupon. Dans le cas d'une action, on parle d'un dividende. La société qui fait des bénéfices, elle peut vous payer un dividende en tant qu'actionnaire ou elle peut décider de tout mettre en réserve pour faire des investissements, etc. etc.
Mmh. Bon, en général, ils essaient de verser un dividende pour que les gens aient envie de continuer d'acheter des actions.
C'est toujours un bon signal qu'on envoie au marché, en fait, quand on verse un dividende. Mmh. Alors, par contre, quand vous achetez une obligation, là, c'est un contrat, c'est un emprunt, donc la société doit vous payer.
Donc, c'est fixe, le revenu, l'intérêt.
C'est fixe. Et alors, donc, du coup, de là découle, en fait, le risque propre à l'obligataire, c'est-à-dire que la société fasse défaut sur son emprunt.
Ah, qu'elle puisse plus rembourser.
Qu'elle ne puisse plus rembourser.
D'accord.
Voilà.
OK.
Ce qui est intéressant, en fait, dans ces deux classes d'actifs, hein, c'est que, donc, on se souvient, donc, l'objectif final, donc, c'est de mettre ensemble ces classes d'actifs qui ont des caractéristiques de risque différentes. Mmh. Hein, dans le cas de l'action, bon, ben, il y a une incertitude sur le dividende. Peut-être qu'on va être rémunéré, peut-être pas. Ça, c'est la stratégie de la compagnie qui va décider. Et dans le cas de l'obligataire, on sait qu'on va avoir notre coupon normalement.
Voilà, sauf catastrophe. Après, il y a aussi l'aspect volatilité,
voilà,
comme on dit.
Il y a un aspect volatilité qui n'est pas tout à fait le même. Mmh. C'est-à-dire que les obligations répondent à un facteur de risque qui sont les taux d'intérêt. Pardon. Mmh. Donc, plus les taux sont élevés et moins le prix de votre emprunt va être élevé.
Alors, attends, là, il faut que je récapitule dans ma tête. Plus le taux va être élevé, moins le prix.
C'est-à-dire, je vais illustrer.
Ouais, ouais.
Imaginons par exemple qu'une entreprise émette 1000 euros d'emprunt. Donc, va sur le marché pour émettre 1000 euros. Elle va dire, ben voilà, moi, je vais emprunter 1000 euros pour 10 ans et je vais payer donc aux investisseurs un coupon de 5% par an.
Mmh.
Bon, très bien, impeccable. Maintenant, donc, comment ça se passe la cotation d'une obligation ? C'est-à-dire que voilà, si les taux dans l'économie sont au même niveau pour 10 ans, c'est-à-dire 5%, l'emprunt, il va être émis au, ce qu'on appelle au pair. C'est-à-dire que 1000 euros, ça vaut 1000 euros.
Ouais.
Voilà. Pourquoi ? Parce que je peux placer, moi, 1000 euros à 10 ans dans cet emprunt obligataire, mais je pourrais les prêter à la banque, ça serait la même chose.
Mmh.
Donc, il n'y a aucun avantage, en fait, à détenir l'obligation ou aller à la banque.
Mmh.
En revanche, si les taux sont beaucoup plus élevés, là, j'ai plutôt intérêt à aller à la banque. La banque va me payer 7%, par exemple, mais mon emprunt, c'est fixe.
Et oui, il restera au 4-5% prévu au début.
Donc, pour qu'il y ait, en fait, une incitation à acheter l'obligation, il faut que j'achète moins cher.
Eh ouais.
Et donc, ça varie de manière inversement proportionnelle au taux.
Donc, c'est un genre de sous-marché, c'est à l'intérieur.
C'est-à-dire que c'est un marché qui est liquide. C'est-à-dire que lorsque vous prêtez l'argent à la compagnie, si demain vous voulez qu'elle vous rembourse ou que quelqu'un vous prenne votre place, vous pouvez vendre votre emprunt.
D'accord. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand l'entreprise lance cet emprunt obligataire, bon, ben, c'est le moment d'acheter, enfin pour ceux qui veulent, parce qu'il y a un top départ.
Voilà.
Et après, à n'importe quel moment, jusqu'au terme de cet emprunt, il y a des marchés où on peut acheter ces obligations.
Exactement.
Qui peuvent dater d'il y a 2-3 ans.
Absolument.
Et elles sont moins chères si elles ont, par rapport au coût de départ, si les taux d'intérêt par ailleurs ont augmenté.
Précisément, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est toute la problématique actuelle.
Eh oui.
Parce qu'on rentre dans un cycle de hausse des taux, que ce soit aux États-Unis et en Europe.
Mmh.
Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la pression sur les marchés obligataires, évidemment, parce que tous les titres qui ont été émis à taux fixe jusqu'à présent, eh bien, maintenant, les investisseurs se disent, ben, pour que ce soit économiquement intéressant plutôt que de placer dans d'autres placements, il faut que
je paye moins cher.
Qu'il y ait quelque chose qui me fasse acheter ces obligations. Et donc, je vais demander, en fait, à payer un prix moindre
d'accord.
que la valeur faciale.
D'accord, que le prix de départ.
Exactement.
Donc en ce moment, c'est ce qui se passe. Les,
eh ben oui.
les obligations, leur prix chute sur les marchés.
Voilà, parce que quand on regarde ce qui se passe sur les taux particuliers à long terme, qui sont en train d'augmenter, et donc par calcul, la valeur actuelle, la valeur de marché de l'obligation, elle est plus faible que sa valeur faciale.
D'accord.
Sa valeur faciale, c'est quoi ? C'est simplement sur le bout de papier qui me dit, voilà, j'ai prêté 1000 euros à cette société, ben c'est 1000 euros aujourd'hui, je vais payer que 800.
Ouais.
Parce qu'il faut qu'il y ait un bénéfice pour
ouais,
moi,
même,
sinon je vais placer mon argent ailleurs.
Bon là on est sur une inflation en France, on dit 5, 6, 7% cette année, je sais pas quoi. Bon, admettons même que ça augmente encore, pour les obligations il peut arriver à un niveau où vraiment plus personne n'en veut, ça vaut plus rien parce qu'au moment où elles ont été émises, on était à 1% ou 2% d'intérêt, c'est possible ça ?
Ça peut monter ouais. en fait, en réalité il y a aussi un impact de la durée de l'emprunt. Plus vous empruntez dans le long terme et plus le titre est sensible, en fait, à la hausse des taux.
D'accord.
Ce qui se passe, en fait, c'est que dans des cas de figure comme ça, eh bien, en fait, les gens ne vont pas aller sur du long terme, ils vont aller beaucoup plus sur du très court terme.
Mmh.
Alors oui, il va y avoir un très fort impact sur le long terme. Enfin, de là que ça vienne à zéro, ça paraît pas concevable.
D'accord. Très bien, pardon. Ouais, alors donc pour le coup, ouais, les obligations en ce moment, c'est plus risqué que.
Alors c'est risqué là, fatalement, parce que on est dans un cycle économique qui est particulier, donc on est potentiellement dans un cycle de hausse des taux avec de l'inflation qui est maîtrisée ou pas. Ça, on est en train de le décider. Enfin, les marchés sont en train d'évaluer la situation, et donc il y a une prudence. Il y a une prudence, et du coup, en fait, les taux longs qui sont sensibles à l'inflation remontent, les marchés obligataires donc décrochent, fatalement. Les actions, en fait, qui ont aussi une sensibilité, en fait, au taux, en subissent le contre-coup. Parce que c'est ce qu'on disait, en fait, dans une émission précédente. Les marchés sont une énorme machine à traiter de l'information.
Oui.
Donc, tout est lié. Donc, les taux vont avoir un impact mathématique, mécanique sur les emprunts, vont aussi avoir un impact sur la valorisation des actions. Pourquoi ? Parce que les investisseurs vont se dire, oulala, mais si l'économie ralentit, mes compagnies, elles vont faire moins de bénéfices, moins de profits, donc je vais payer moins cher une part sociale de ces compagnies. Parce que tout est lié, en fait.
Donc là, en ce moment, on revient à la construction du portefeuille,
voilà.
Le thème de l'électronique financière cette semaine. Là, dans la construction d'un portefeuille actuellement, Steve, là, vous diriez, bon, les obligations, oui, mais peut-être moins qu'avant.
Peut-être moins qu'avant, de manière plus prudente.
Oui.
Voilà. La logique de la construction du portefeuille, c'est de dire quoi ? C'est de dire, voilà, on a plusieurs classes d'actifs, donc actions, obligations, devises, matières premières, etc. Ces classes d'actifs sont sensibles à un certain nombre de facteurs propres. Et donc, en théorie, elles ont tout un rendement positif. Il y a un intérêt à les inclure dans un portefeuille, mais elles ne varient pas de la même manière ensemble. Donc l'idée, en fait, de combiner des classes d'actifs qui ont un rendement positif mais qui ne varient pas de la même manière, c'est que vous allez essayer de neutraliser au niveau du portefeuille l'impact de la variation de ces différentes classes d'actifs.
D'accord.
Si on investit 100% de nos fonds dans les actions, potentiellement, à terme, en moyenne, je vais avoir un rendement. Mais je vais subir en fait toute la volatilité du marché jusqu'à ce que je décide de plus investir. Cette volatilité, elle peut être contrebalancée par une classe d'actifs qui va aussi m'apporter un rendement positif, mais qui va varier en sens inverse des actions.
D'accord.
Et donc, au niveau de mon portefeuille, je vais avoir une volatilité beaucoup plus réduite. mais toujours une espérance de gain positif.
Alors, en sens inverse des actions, par exemple, il y a quoi qui monte quand les actions en moyenne baissent en ce moment-là, ces derniers mois?
Par exemple, si on prend ce qui se passe aujourd'hui, on est dans un environnement très inflationniste, les matières premières ont vraiment bien performé.
D'accord.
Alors, pour des raisons XY, mais ce qui se passe, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a des matières premières, on parle de l'or, on parle du blé, on parle des métaux précieux, tout ça a très très bien performé.
D'accord.
Et donc, un portefeuille qui est constitué d'actions, d'obligations, de matières premières, certes, il y a eu de la baisse sur la partie actions, certes, il y a eu de la baisse sur la partie obligataire, mais ça a été contrebalancé par une hausse des matières premières.
D'accord. Et ça, c'est toujours dans un contexte particulier. Il n'y a pas des actifs où on sait, enfin des investissements où on sait que de toute façon, là, enfin à moins de la fin du monde, bon, c'est toujours une sécurité. Je perdrai pas grand-chose si je dois perdre quelque chose dans la pire des situations possibles. Il n'y a pas du blindé de chez blindé?
Si, ça s'appelle un livret A.
Ah bah ouais.
Mais le problème en fait du livret A, c'est que d'un point de vue monétaire, vous êtes sécurisé. Mmh. Votre capital, il est investi à la banque, très bien. On vous paye même un petit rendement, sauf que sur le long terme, vous perdez tout votre pouvoir d'achat.
Mmh, parce que l'inflation est supérieure à ce que ça rapporte. D'accord, ok.
Et donc c'est un problème.
Ouais. Mais alors, ce qui veut dire que dans la construction d'un portefeuille, vous, Steve, quand vous l'élaborez avec un client, vous mettez quand même un petit livret A s'il n'y est pas déjà?
Alors moi, oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que, ok, je sais que sur le long terme, en fait, c'est pas idéal, mais il faut quand même garder une sorte de prudence parce qu'on peut avoir besoin d'argent. Mmh. On ne sait jamais ce qui va se passer.
Ah oui.
Que ce soit en fait sur les marchés ou dans la vie, donc il faut garder une épargne de précaution.
D'accord. Bon, alors on continue dans la construction de ce portefeuille compliqué en ce moment, si je comprends bien.
Ah ben c'est compliqué en ce moment de savoir comment assembler toutes ces classes d'actifs, de savoir surtout mettre un chiffre en fait sur le rendement espéré de chacune de ces classes d'actifs, c'est compliqué parce qu'on est encore une fois dans un cycle économique qui est opaque.
Mais en même temps, alors j'y connais rien, mais on peut dire aussi que les situations difficiles, pas claires, c'est peut être des moments d'opportunité.
Ça peut être des moments d'opportunité, tout à fait. Alors, moi, par exemple, quand je construis des portefeuilles, je me dis que de toute façon, il faut quand même être investi.
Ouais.
Pourquoi? Parce que sur le long terme, mon espérance de gain, elle est quand même positive. Donc, il faut être investi. Par contre, étant donné que je ne sais pas ce qui va se passer en fait dans le court terme, quand je structure le portefeuille, je le fais de manière prudente en disant, voilà, je vais garder pour l'instant la plus grosse partie du portefeuille en actifs solides, donc en l'occurrence pour l'instant en cash, mais je vais quand même allouer une petite fraction aux actions, aux obligations, aux matières premières.
D'accord, donc le cash c'est pour ne pas perdre trop d'argent si jamais il y a un énorme problème, et puis être prêt à investir au
exactement
moment où le vent commencera
c'est
à tourner.
C'est tout à fait ça.
D'accord.
Il faut garder cette réserve en fait pour agir de manière opportuniste.
Ok, il y a des proportions? Alors ça dépend des périodes.
Ça dépend des périodes, mais disons que voilà, grosso modo, pour un profil équilibré, il y a toujours ce ratio de 60-40.
Mmh.
60% d'actions, 40% d'obligations.
Ouais.
Après, ça reste une base. Il faut prendre un peu plus de cash. Il y a de l'immobilier, il y a un peu de matière première. Mais ça, si vous voulez, deux classes d'actifs fondamentales, c'est vraiment les actions et les obligations. Donc pour schématiser, on va dire que dans un ratio équilibré, c'est 60-40.
D'accord. Et à l'intérieur de ça, il y a des sous-divisions, j'imagine?
Alors après, oui, il y a des secteurs, par exemple, qui peuvent correspondre à des activités économiques particulières. Il y a des zones géographiques, donc on peut investir aux États-Unis,
en Asie, en Afrique, d'accord.
La raison, en fait, pour laquelle il y a toutes ces différences dans une même classe d'actifs, ça tient à un mot qui est la corrélation.
Ça me rappelle des souvenirs.
Alors, eh oui.
De maths.
Exactement.
Ouais.
Alors, il a bien fallu qu'on trouve une manière, en fait, de justifier ou d'expliquer comment on faisait pour structurer un portefeuille. Et donc, la corrélation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une mesure statistique qui va nous dire, ben voilà, cette classe d'actifs, elle va varier de la même manière ou inversement à telle autre classe d'actifs.
Mmh.
Et donc, si on se rappelle ce qu'on disait il y a quelques minutes auparavant, l'idée, en fait, de la construction d'un portefeuille, c'est d'assembler des classes d'actifs qui ont un rendement positif,
ouais.
mais qui ne varient pas ensemble. De la même manière ouais. ensemble.
Alors, par exemple, je pense à un truc là. Dans nos pays occidentaux, la population vieillit. Donc, tout ce qui a un lien avec des grandes entreprises qui proposent des produits ou des services autour du vieillissement, alors, je pense à la vue, les maisons de retraite, où j'en passe, c'est des meilleurs. On sait que même si rien ne se passe, la croissance démographique de ces populations feront que l'entreprise devra avoir une croissance équivalente.
Donc exactement.
Là, c'est à peu près sûr, mais en même temps, il n'y aura jamais 10 fois plus de vues en 10 ans. Excusez-moi l'expression.
Alors, c'est un thème, oui. en fait. Donc là, c'est un investissement thématique
oui.
qui fait parfaitement sens parce que ça s'appuie sur des données démographiques qui sont relativement stables.
Ah ouais, qui sont, oui, il n'y a pas plus.
Donc, c'est effectivement un secteur qu'il faut avoir en portefeuille, à mon avis. Il y en a d'autres. Bah, il y a toute la partie technologique,
ouais.
Intelligence artificielle, la robotique.
Ça, on se dit que ça se développe.
Voilà, etc. Ça, on sent que oui. de toute façon, ça va prendre une importance considérable. Et on le sait parce qu'on voit dans la vie de tous les jours, déjà, ça arrive. Mmh. C'est là. Donc, on sait que ça va continuer à se développer. Maintenant, encore une fois, il faut faire attention. Pourquoi ? Parce qu'en particulier, la partie technologique, donc c'est des... sont des entreprises qui sont relativement récentes, on va dire. Mmh. On parle pas, c'est pas la même chose qu'un LVMH. Donc, ces sociétés, en fait, qui développent, en fait, ces technologies, elles ont pas encore le même historique de profit qu'une société qui est là.
Voire pas du tout de profit.
Voire pas du tout. Hein. Mmh. Mais c'est ce qui s'est passé, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé sur les marchés récemment. On voit, par exemple, le Nasdaq 100.
Ouais. Qui est ça, le c'est marché américain. Entreprise de haute technologie américaine.
Exactement. Voilà. Donc, représentatif, c'est vraiment, en fait, ouais. ce qu'on appelle, voilà, le benchmark en termes de marché, pour représenter le secteur technologique. Mmh. Ben, ce marché a décroché vraiment de forte manière. Mmh. Ben, parce que on entre dans une phase incertaine. Et qui dit incertitude sur les profits, incertitude sur les valorisations de ces sociétés. Et donc, il y a une correction.
Alors, il a décroché, mais après avoir largement oui. augmenté plus que le reste les années précédentes.
Exactement.
Donc alors, sur du long terme, on est encore, enfin, moyen terme même, on est encore gagnant sur le Nasdaq.
On est encore gagnant sur le Nasdaq. Ouais. Alors après, on peut rentrer aussi dans un débat qui est intéressant, de savoir est-ce que le marché a augmenté parce que les investisseurs véritablement pensent que la valorisation de ces sociétés va exploser dans les années à venir, mmh. pour les raisons commerciales ou simplement sociétales, mmh. ou est-ce que c'est le simple fait beaucoup plus mécanique de se dire la Federal Reserve, donc la Banque Centrale Américaine, au même titre que la BCE, a émis tellement d'argent, pour sortir de la crise de 2008, puis il y a eu le Covid,
ouais.
donc il y a eu des mesures pour soutenir l'économie qui étaient vraiment, bah, ça, c'était du jamais vu, hein, tout simplement. Mmh. Et donc cet argent, il s'est retrouvé mécaniquement sur les marchés financiers. Voilà. Ça a créé une sorte d'inflation
une sorte de
des actifs.
Bulle, ouais.
Alors maintenant, la grosse question que tout le monde se pose...
Quelle est la vraie valeur du truc ?
Bah, quelle est la vraie valeur ? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer maintenant que les banques centrales font machine arrière ?
Ah oui. Oui, parce que ça, c'est annoncé. Enfin, c'est déjà commencé un petit peu aux États-Unis. En Europe, ça sera pour cet été.
Et ben, c'est ce qui se dit. Voilà.
D'accord.
Donc, ça a déjà commencé aux États-Unis. La Banque Centrale Européenne est plus réticente parce que ben, l'économie européenne n'est pas dans la même... va dire santé financière que celle des États-Unis. Et donc, on se pose la question de savoir si l'économie européenne est capable d'encaisser une hausse des taux aussi rapide que celle qu'il y a eu aux États-Unis. Et puis surtout, ce qui va se passer quand la Banque Centrale Européenne va arrêter de faire marcher la planche à billets.
Eh oui. Alors, juste vite fait là-dessus, la planche à billets, oui, c'est-à-dire que là, la Banque Centrale, depuis plusieurs années, nombreuses années même, on peut dire, elle donne de l'argent contre pas grand-chose. Enfin, si.
C'est ça. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va racheter aux banques certaines positions.
Voilà, tout ce qu'elles ont, même si ça vaut rien. À part que pour elles, éventuellement, dans un avenir. Voilà. Ok.
C'est un petit peu ça. Et donc, les banques se retrouvent avec beaucoup d'argent. Ouais. C'est ce qui alimente, en fait, les crédits, hein, que ce soit les crédits immobiliers ou ce qui alimente, en fait, l'économie, ça va venir irriguer l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que plus les banques ont d'argent ou de facilité à se financer, et plus les vannes du crédit sont ouvertes, et plus l'économie donc, va être irriguée par, par de l'argent pas cher.
Bah oui, l'argent pas cher, donc allons-y. Hein. Ouais, okay.
Sauf que c'est potentiellement inflationniste.
Mais oui.
Et le mandat de toutes les banques centrales, c'est précisément de combattre l'inflation.
Ouais. Ça, on y reviendra peut-être une fois parce que ça peut sembler évident que l'inflation, c'est pas bien, mais c'est pas forcément évident. Moi,
Oui, on y reviendra. C'est effectivement un bon thème
D'accord.
de parler de ces inflations.
On termine sur la construction du portefeuille, Steve.
Oui.
Pour cette semaine. Donc, on a vu que c'était plus compliqué en ce moment que peut-être il y a quelques petites années.
Voilà.
Mais ça se fait quand même, notamment avec un expert autour de soi, un conseiller financier comme vous. Qu'est-ce qu'on a oublié de se dire autour de ce sujet ?
Alors, je vais simplement faire une brève remarque entre la théorie et la pratique.
Ouais.
On a parlé des coefficients de corrélation, donc qui est un des outils en fait pour nous aider à mettre en place cette structure de portefeuille. C'est très bien en théorie, c'est facile à calculer, etc., etc. Donc ça donne une bonne indication. Problème, en pratique, ces coefficients, ils ne sont pas stables. Et quand les coefficients ne sont pas stables, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 20% sur les actions, il faudrait avoir 15% ou vice-versa.
D'accord.
Et donc, c'est un outil à maintenir avec précaution parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'instabilité. Il n'y a pas de recette miracle, en fait. C'est ça que je veux dire.
Et donc, ça veut dire aussi qu'on le réévalue tout au long d'une année,
exactement.
Au fur et à mesure des années.
Il faut, en fait, et c'est pour ça, surtout quand le client a un horizon d'investissement assez long, il faut vraiment suivre les portefeuilles parce que tout change. Il n'y a rien, en fait, qui est constant en finance. Contrairement à aux sciences exactes, à l'architecture ou aux maths, rien n'est constant. Les règles changent tout le temps.
Et là, Steve, puisque vous êtes dans ces métiers depuis quelques décennies maintenant, la période...
merci de le rappeler.
pas beaucoup de décennies, mais enfin, quelques décennies quand même. Donc, vous en avez eu des vertes et des pas mûres. Là, cette période actuelle, là, comment, pour vous, bon, vous avez déjà connu ça, ça peut se comparer à d'autres choses, dans un sens ou dans l'autre, ou bon, là, vraiment, vous vous dites, là, franchement, j'avais encore jamais vu un truc pareil.
Ah ben non, mais on n'avait encore jamais vu un truc pareil. Parce que ce qui se passe au niveau des banques centrales, c'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu, en fait, des mesures aussi puissantes, en fait, de soutien à l'économie avec des taux négatifs.
Oui, oui.
Les taux négatifs, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et ça a fonctionné, ça a permis de soutenir les économies. Sauf que maintenant, on arrive au point où on va basculer potentiellement dans un environnement inflationniste. Comment on va faire ? Comment les banques centrales vont faire pour récupérer leur bille, si je puis dire, et retourner vers quelque chose de plus normal. Donc moi, ça, je ne l'ai jamais vu.
D'accord. Et vous voyez des pistes éventuelles dans
la prudence. Il faut vraiment faire preuve de prudence et d'humilité. On doit vraiment se dire, OK, aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui se passe et il faut vraiment être très transparent et très honnête. Voilà, ce sont des environnements très complexes. Et donc, je sais qu'il faut que je sois investi néanmoins parce que je n'ai pas le choix. Sinon, je perds mon pouvoir d'achat, mais je vais être prudent sur mes coefficients de corrélation. Et surtout, c'est là en fait où c'est une vraie alchimie. Je vais allouer des petits montants à des classes d'actifs risquées, quitte ensuite à augmenter au fur et à mesure que se développe quelque chose de plus tangible au niveau de la compréhension économique contemporaine.
Ces périodes-là où c'est pas clair, on n'a pas une vision de ce qui va se passer dans l'avenir, ça peut durer longtemps ? C'est quoi ? C'est histoire de 2-3 mois jusqu'à cet été ou on est parti pour 3-4 ans ou voire même plus dans cette situation ?
Je pense que ça peut durer 3-6 mois.
D'accord.
Oui, là cette année, ça va être un petit peu délicat.
Ok. Bon, sinon, à part ça, il fait beau, il fait chaud, c'est côté bonne nouvelle.
Ouais. C'est déjà pas mal.
Un dernier conseil ou un dernier mot, Steve, pour conclure cette émission cette semaine, les chroniques financières ?
Je dirais de l'humilité. Il faut vraiment rester humble par rapport au marché. Ce sont des mécaniques très, très complexes, très difficilement approchables ou compréhensibles avec l'outil mathématique. Ça peut aider, mais il faut vraiment avoir cette touche humaine aussi. Enfin, faut jamais oublier qu'on a un cerveau en fait qui est capable de faire des choses exceptionnelles et il faut s'en servir. Il faut pas simplement utiliser l'outil mathématique. Il y a une partie intuition qui est importante.
On va terminer sur cette touche d'humanité, même dans la finance. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Steve.
Merci, David. Merci à tous.
La semaine prochaine, le sujet, le thème, vous savez où ? On attend de voir ce qui va se passer sur les marchés.
Mais on pourrait parler de l'inflation.
Très bien. On est dans l'actu.
Allez.
Avec plaisir. Merci beaucoup.